France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Marie-Lou Mantova.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes chercheuse à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et vous y êtes spécialiste des mécanismes de mortalité des arbres en conditions de sécheresse. Nous vous avons invité car nous sommes nombreux ces derniers jours en nous promenant en ville ou en campagne, voire en forêt, à avoir fait le constat soit d'arbres en souffrance, soit au contraire d'arbres qui paraissaient en bonne santé alors que nous traversons une période chaude et sèche. Nous avons donc besoin de comprendre. Merci d'être là pour nous aider. Merci aussi de répondre aux questions des auditeurs qui nous appellent. 01 45 24 7000, c'est le numéro. Vous pouvez aussi passer via l'application Radio France. Et là, c'est l'onglet Réagir. Je précise, Marie-Lou Mantova, que vous êtes en duplex des locaux d'ici Auvergne à Clermont-Ferrand. Ce qui amène ma première question. Est-ce que vous avez pris le temps ces derniers jours de sortir de la ville pour vous balader, peut-être en plaine, peut-être un petit peu plus en altitude, et qu'avez-vous constaté ?
Alors oui, je suis allée en altitude dans le Massif central où il y a de nombreuses forêts de conifères et j'ai pu constater malheureusement leur dépérissement. On n'a même pas besoin de se promener réellement en forêt pour constater cette mortalité. On peut très bien le faire depuis le bord de la forêt, même depuis la route, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'arbres rouges et d'arbres qui sont donc morts ou dépérissants.
C'est lié à ce qu'on a connu peut-être ces derniers mois ou sur plusieurs années, ou c'est vraiment lié aux vagues de chaleur là, de ces dernières semaines ?
Alors c'est un peu un mix des deux, c'est lié à la fois à ce qui s'est passé sur les dernières années, parce que les arbres ont été fragilisés, parce que les sécheresses ont été de plus en plus fréquentes, mais c'est sûr que le coup de chaud qu'on a connu au cours des dernières semaines n'a pas aidé.
Est-ce qu'il y a une différence entre en ce moment l'état des arbres en ville et à l'extérieur des villes ?
Alors en ville, on a beaucoup de feuillus. Alors que dans le Massif central, on a pas mal de conifères aussi. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en ville, et vous avez certainement dû le constater à Paris aussi, c'est que les arbres présentent des feuilles qu'on a l'habitude de voir plutôt à la fin du mois d'août. C'est-à-dire des feuilles qui ont l'air desséchées, qui sont recroquevillées sur elles-mêmes. Et pour une grande partie des arbres, ça, c'est très clairement un indicateur visuel du stress hydrique. Alors, il n'y a pas réellement une différence entre la forêt et la ville en ce moment.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'un arbre quand les températures montent au-delà de 30 degrés et jusqu'à tutoyer les 40 degrés? Qu'est-ce qu'il fait? Il boit?
Alors, pour comprendre ce qui se passe dans un arbre quand il fait très chaud, il faut déjà se rappeler qu'un arbre, c'est centré au niveau de l'eau. Donc, on a un système hydraulique qui est continu. Donc, l'eau va circuler dans l'arbre, elle va rentrer par les racines, monter dans l'arbre via des vaisseaux qui constituent le bois et ressortir par les feuilles. Et cette eau, elle va monter, mais ce n'est pas à l'aide d'un moteur mécanique, c'est à cause d'un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration, qui va jouer ce rôle de moteur. Et cette évapotranspiration, elle va se réaliser au niveau des feuilles. Et l'eau, au niveau des feuilles, elle va précisément s'évaporer au niveau de stomates, qui sont des petits pores qui vont venir s'ouvrir et se fermer au niveau de ces feuilles. Et donc, quand l'eau s'évapore, elle va créer une traction qui tire toute la colonne d'eau vers le haut, mais quand il fait chaud et sec, bah, tout s'emballe. L'air va devenir très demandeur en eau, donc l'eau va s'évaporer encore plus vite au niveau des feuilles. Et en même temps, au niveau du sol, on aura de moins en moins d'eau disponible. Donc la tension dans les vaisseaux, elle va augmenter. Comme si on tirait de plus en plus fort sur un élastique, on va tirer sur la colonne d'eau. Et parfois, comme un élastique sur lequel on tire, ça va finir par casser. Et lorsque ça se casse, on a des bulles d'air qui vont se former dans les vaisseaux. On appelle ça des embolies. Et l'eau ne va plus circuler correctement. Alors, c'est la même chose que l'embolie gazeuse chez l'humain. Chez l'humain, quand il y a une embolie, ça va venir bloquer la circulation du sang.
C'est le même phénomène, chez les arbres, c'est le même mécanisme.
C'est à peu près le même mécanisme. Chez les arbres, au lieu de bloquer la circulation du sang, ça va bloquer la circulation de l'eau. Et donc, les différentes parties de l'arbre, elles ne seront plus irriguées et elles vont se déshydrater et mourir.
Ça veut dire que
là,
les arbres... Oui, allez-y.
Oui, là c'est vraiment le point clé. C'est-à-dire qu'un arbre ne va pas mourir de manière brutale, mais il va perdre progressivement sa capacité à transporter l'eau.
C'est-à-dire que les arbres que vous nous décriviez, que vous avez vus en forêt ces derniers jours, ils sont victimes d'embolies, c'est ça ?
Oui, ils sont tout à fait victimes d'embolies. Ils ont dépassé des seuils qui font qu'ils sont tellement stressés qu'il y a des bulles de gaz qui se forment dans leur vaisseau et ils ne peuvent plus conduire l'eau.
Est-ce qu'on peut avoir une idée, vous nous expliquez que les arbres puisent l'eau dans le sol, est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité d'eau que peut puiser un arbre quand il fait extrêmement chaud comme ces derniers jours ?
Alors quand il fait extrêmement chaud comme ces derniers jours, un arbre, un feuillu, un chêne, ça peut prélever plusieurs centaines de litres d'eau par jour pour survivre.
plusieurs centaines de litres d'eau. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait évidemment beaucoup d'eau disponible. Je suppose que tous les arbres ne réagissent pas de la même façon. Là, vous avez parlé des feuillus, ils ne sont pas tous dans la même configuration.
Alors non, ils ne réagissent pas du tout de la même façon. Et c'est même fondamental pour comprendre les forêts. Donc on va avoir des variations dans les réponses des arbres à la sécheresse, entre espèces bien sûr, mais aussi entre individus d'une même espèce. On va observer des différences énormes avec, au cours d'une canicule, certains arbres qui vont répondre très différemment à quelques mètres d'écart les uns des autres.
Est-ce qu'en ce moment, vous allez ausculter les arbres pour savoir dans quel état de santé ils sont? Est-ce que vous faites ça?
Alors oui, au niveau de mon laboratoire, on a des expérimentations qui sont en cours, dans lesquelles on suit l'état hydrique des arbres tout au long de l'année, et là plus particulièrement en ce moment, face aux canicules et aux sécheresses.
On verra ce qu'on peut faire avec vous dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on accueille Jacob, qui nous appelle de Compiègne. Bonjour Jacob.
Bonjour.
Vous vouliez nous parler d'une expérience que vous avez faite, je crois ?
Oui, une petite expérience, bon, à notre échelle, hein, bien sûr. On avait planté quelques arbres fruitiers à 1 an.
Avec des amis, avec votre famille ?
Non, des colocs. Ouais, des colocs. On est en études d'ingénieur à Compiègne.
Ouais.
Colocation de 5 étudiants. Et donc, il y a 1 an, on avait pour projet de planter quelques arbres fruitiers dans notre jardin. Donc, il y avait un pommier, un cerisier, un plant de tomates, ainsi que des herbes aromatiques. Et donc, pendant les 6 premiers mois, ça s'est développé. Et puis il y a eu la première hausse de chaleur courant mai. Donc on a senti que les arbres commençaient à être faibles. On a essayé de beaucoup les arroser, mais de ce que j'ai compris sur ce qu'expliquait la chercheuse, c'est que c'est pas forcément un souci d'eau, mais aussi du fait que l'eau doit approvisionner l'arbre à cause des bulles.
Ouais.
Et donc après, il y a eu la deuxième sécheresse, là, il y a deux semaines, enfin qui a commencé il y a 2 semaines, et là on a vu que tout avait basculé, quoi. Les tomates donnaient plus rien, les pommes tombaient, enfin c'était catastrophique, quoi.
Et donc là, dans quel état sont ces plantes, Jacob ?
Là il y a plus rien. Le plant de tomate, on a dû le jeter parce qu'on pouvait plus rien faire. Les cerisiers, ça donnait, de toute façon ça n'a pas encore donné, mais on savait que là ça allait pas donner. Et le pommier, pareil, on n'a rien eu cette saison, quoi.
Merci Jacob pour ce témoignage. Marie-Lou Mantova, c'est plus difficile pour des jeunes plantes, pour des jeunes pousses ?
On pourrait croire qu'un arbre adulte est forcément plus résistant qu'un jeune, mais en réalité, c'est pas si simple. Un arbre qui est jeune va avoir un système racinaire qui est encore peu profond, et donc dès que les couches superficielles du sol sèchent, il va être vite en difficulté. Mais par contre, un arbre qui est adulte, lui, il a plus d'atouts, il a des racines qui vont être plus profondes, une certaine inertie, mais il a aussi, en contrepartie, une énorme machine à alimenter en eau, parce qu'il va avoir beaucoup plus de feuilles. Et donc, s'il y a beaucoup plus de feuilles, la demande en eau va être très importante. Et en plus, parfois, il arrive déjà fragilisé par des sécheresses qui ont eu lieu dans le passé.
Est-ce qu'on
Donc,
sait...
c'est pas uniquement une question d'âge.
Mais est-ce qu'on sait s'il y a un âge moyen auquel les arbres sont plus vulnérables ?
Alors, pour le moment, on ne le sait pas, et c'est toutes les recherches que l'on mène à Clermont-Ferrand.
Avant de donner la parole à Christian, Jacob soulignait le point de l'arrosage. Il faut arroser ces arbres quand on vient de les planter depuis 6 mois, 1 an ?
Alors, en théorie, on dirait que non, mais en pratique, quand on est face à des sécheresses ou à des canicules comme en ce moment, il vaut mieux les arroser si on souhaite les sauver.
Oui, donc là, ils auraient dû arroser leurs cerisiers et leurs pommiers. Peut-être n'est-il pas trop tard pour le faire ?
Alors, ça dépend. Si toutes les feuilles sont tombées, c'est très tard pour le faire. Après, ils peuvent toujours essayer de les réarroser et voir ce que ça donne. Mais bon, comme on en discutait tout à l'heure, il faut des centaines de litres d'eau pour maintenir un arbre en vie.
Christian est en ligne avec nous. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
D'où nous appelez-vous ?
Je vous appelle d'Auvergne, moi aussi.
Ah ben voilà. Nous vous écoutons, Christian.
Oui, bah écoutez, je voulais poser une question parce que je constate depuis des années que quand on entretient le bord des routes, les machines qui sont faites pour couper des herbes ou des broussailles attaquent régulièrement les arbres. Théoriquement, ça ne devrait pas être le cas, mais ils sont régulièrement écorcés, abîmés par des... les machines, et je vois régulièrement aussi des arbres qui pourrissent et meurent. Je voulais savoir comment ce phénomène et ce manque d'attention aux arbres pouvait être un facteur aggravant, surtout en période de sécheresse. J'imagine que des tas de bestioles ou de petites bactéries ou autres peuvent rentrer, champignons, par ces biais-là. J'arrive à voir des arbres dont l'écorce a disparu suffisamment sur 40 cm de hauteur, et on voit le blanc du bois.
Merci Christian pour cette question. Marie-Lou Mantova.
Bah alors oui, Christian a tout à fait raison. Quand un arbre est abîmé, c'est la porte d'entrée pour tous les pathogènes. Et en plus, dans les conditions de sécheresse, lorsque l'arbre il est stressé, il va devenir encore plus vulnérable aux attaques de ces insectes ou des pathogènes. C'est un peu comme nous, les humains. Si on est fatigué ou stressé, on a plus de chances de tomber malade. C'est aussi ce qui se passe chez les arbres. Donc il faudrait faire plus attention aux arbres lorsqu'on entretient le bord des routes. Parce que notamment, si on détruit leur écorce, on altère quand même le transport de l'eau dans l'arbre.
Dans les nuisibles, il y en a un qui est très connu, c'est le scolyte. Marie-Lou Mantova, ça veut dire qu'il y a davantage d'attaques de scolytes en ce moment ou il y en aura davantage dans les prochains mois ?
Il risque d'y en avoir davantage dans les prochains mois parce que les arbres sont fragilisés.
Alors, la réaction, ce que l'on peut faire et ce que vous essayez de faire à l'INRAE, est-ce que ça veut dire que nos massifs sont en train de changer et que certaines essences ne sont plus adaptées à certaines régions et que nos forêts sont en train de changer de visage sous l'effet de ce réchauffement climatique ?
Alors oui, les forêts sont tout à fait en train de changer de visage par rapport au réchauffement climatique. Et il va falloir qu'on... Déjà, on accepte une idée assez simple, c'est qu'on ne peut pas protéger les forêts comme on protège les humains. Ça fait quelques semaines qu'on nous parle du fait qu'on peut climatiser les espaces. Nous, quand on a trop chaud, on peut climatiser les bâtiments, refroidir nos bâtiments, mais on ne pourra pas climatiser les forêts. Et elle va dépendre directement du climat extérieur. Et donc, ça veut dire que tout l'écosystème qui est autour de la forêt sera aussi impacté. Et pas seulement les arbres, ça veut dire aussi les insectes, les oiseaux, la biodiversité en général. Donc, on doit changer de logique. On n'est plus trop dans une gestion d'optimisation des forêts pour la productivité, mais plutôt dans une gestion du risque. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour protéger ces forêts ? Nos études montrent qu'on peut essayer de diversifier les espèces, introduire de la diversité génétique, faire des mélanges d'espèces, mais aussi essayer de choisir des espèces en fonction des seuils de stress hydrique que l'on caractérise. Alors, il faudra adapter cette gestion forestière tout en sachant qu'un arbre qu'on va planter aujourd'hui, on ne l'exploitera que dans plusieurs dizaines d'années. Et donc, les décisions qu'on prend maintenant, on les prend pour un climat qu'on ne connaît pas exactement.
Ça, c'est ce qu'on peut faire, nous. Est-ce qu'on sait si les arbres sont capables de mutation face à la chaleur ? Est-ce qu'ils sont capables de s'adapter ?
Alors, oui, ils sont capables de s'adapter, mais ce n'est pas à l'échelle d'une seule canicule. Les mutations génétiques, elles existent, mais c'est lent et ça se fait sur des générations. Donc il faut plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années, pour que les mutations génétiques rentrent en compte. Alors ce qui va jouer à court terme, ça va être surtout la plasticité, c'est-à-dire la capacité des arbres à ajuster leur fonctionnement. Il existe aussi parfois une espèce de forme de mémoire du stress, avec une certaine acclimatation, mais clairement, ça ne suit pas la vitesse du changement climatique actuel.
Mais ça veut dire que dans quelques milliers d'années, on pourrait avoir des chênes qui se seraient adaptées à un autre climat ?
Potentiellement, oui, s'ils arrivent quand même à se reproduire.
Dernière question pour vous, Marie-Lou Mantova. C'est Françoise qui nous l'envoie des Hautes-Alpes. Elle réagit au terme d'embolie que vous avez utilisé tout à l'heure. Est-ce que c'est utile de tailler les arbres pour avoir moins de ramures, demande-t-elle, et limiter l'embolie ?
Alors, pour limiter l'embolie, ça ne va pas avoir un effet direct, mais par contre, effectivement, réduire la surface foliaire, donc le nombre de feuilles qu'il y a dans un arbre, ça peut être utile de les tailler pour qu'ils transpirent moins.
Merci d'avoir répondu à mes questions et aux nombreux auditeurs qui étaient avec nous aujourd'hui. Marie-Lou Mantova, chercheuse à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, en direct de Clermont-Ferrand, 13h46 sur Inter.